Vous écoutez France Culture.
Le Salon Noir. Ceux qui vont mourir te saluent. Tel est le titre du Salon Noir aujourd'hui. Mais consacrons quelques instants à d'autres morts. Ceux de Pontoise, cette ville ni parisienne ni provinciale, à 40 km de la capitale, et à la destruction de sa nécropole, 12e siècle, connue de longue date, au pied de la cathédrale Saint-Maclou. Pontoise, qui se revendique ville d'art et d'histoire, peut-elle actuellement laisser détruire à peu de frais une grande partie de son passé sous la pression probable de quelques guides commerçantes et locales? En 2009, des dizaines de sépultures médiévales étaient détruites à l'appel mécanique au Puy-en-Velay. En 2010, Pontoise relèvera-t-elle le défi? Ceux qui sont morts te saluent. Retour au Salon du Livre en direct sur le studio de France Culture pour un ouvrage fraîchement paru chez Actes Sud, La mort en face, le dossier Gladiateur. Éric Tessier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Nîmes et vous nous faites pénétrer cet après-midi au cœur de l'amphithéâtre, l'amphithéâtre et ses tueries. La gladiature indissociable de Rome incarne-t-elle la barbarie au cœur de la civilisation? Nous en reparlerons. Mais reprenons d'ailleurs cette phrase de Carcopino. Pour l'honneur des Romains, nous voudrions arracher du livre de leur histoire ce feuillet ou ce brouillard taché de sang indélébile, l'image de la civilisation. Éric Tessier, la gladiature romaine est-elle un phénomène unique dans le monde antique?
Ben non, justement, c'est au contraire quelque chose de très bien partagé, quelque chose qui remonte à des temps anciens, puisque Homère déjà en parle, au moment de la mort de Patrocle, on organise des jeux funéraires et donc un combat de ce qui ne s'appelle pas encore un combat de gladiateurs, mais qui en a toutes les apparences. Ensuite, les Italiens du Sud reprendront ça, les Étrusques, mais même Hannibal va organiser un combat de gladiateurs. On retrouve ça aussi dans le monde celte, dans le monde ibérique. Donc, les combats ritualisés, les combats mis en spectacle, constituent quelque chose de tout à fait caractéristique des mondes antiques.
Et quelle est l'origine? Quelle est son origine exacte?
L'origine est une origine funéraire, une origine rituelle. Il importe de commémorer donc un personnage illustre qui est disparu. Et au moment de ses obsèques, les Grecs, c'est le cas donc dans l'Iliade, dans Homère, organisent des jeux funèbres. Il peut y avoir des courses de chars, de chevaux, des différentes épreuves de type olympique, et également des combats donc avec des armes, avec une panoplie complète de guerriers, où le sang peut couler, où la mort peut être au rendez-vous, mais là on est dans du combat qui est volontaire par des gens qui font assaut de bravoure pour commémorer donc la mort du disparu important.
Vous me dites que la gladiature s'intègre dans le rituel funéraire. On sait exactement à quel moment justement il s'intègre? Alors, durant la cérémonie, peut-être même.
Si on prend donc l'exemple des Romains, pour lequel quand même on a le plus de renseignements, ça commence donc au 3e siècle avant notre ère, au moment de la République romaine, et deux fils, à l'occasion des obsèques de leur père, vont proposer donc le combat de trois paires de combattants sur le forum romain, donc en public, devant donc la cité rassemblée. C'est lié aussi à d'autres rituels, comme le banquet funéraire. Donc il y a, donc là on voit se rapprocher certains éléments qui vont perdurer, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est offert, c'est quelque chose qui est offert par un notable, qui est offert donc à la foule, pour des raisons généralement commémoratives, en l'occurrence donc commémorer la mémoire d'un père, et quelque chose donc qui se situe dans un contexte de spectacle, dans un contexte donc où la cité se met un peu en scène autour de ces gladiateurs.
Et que fait-on du corps du gladiateur alors, dans le sacrifice? Est-ce que, par exemple, il appartient à ce qu'on appelle les sépultures d'accompagnement? Est-ce qu'on l'intègre à côté du défunt?
Non, ça, on n'a pas de... Aucun élément ne l'atteste. C'est pas véritablement... c'est quelque chose qui a souvent été avancé, enfin, longtemps été avancé, l'idée du gladiateur succédané de sacrifice humain. Apparemment, ce n'est pas du tout dans ce contexte-là que ça se passe, ce n'est pas des sacrifiés. On connaît assez mal qui sont les gladiateurs de la première gladiature, de la gladiature funéraire. On ne sait même pas véritablement s'ils sont encore des volontaires ou s'ils sont déjà des esclaves, des prisonniers de guerre. C'est quelque chose, l'idée d'utiliser le prisonnier de guerre à des fins de gladiature qui va venir un peu plus tard, qui vient vers le 2e siècle avant notre ère, au moment où la gladiature va prendre une ampleur plus considérable avec les Romains.
Éric Tessier, quelle est la place du sacrifice, notamment humain, dans le monde romain?
Les Romains ne recourent pas, sauf cas vraiment absolument exceptionnel, au sacrifice. Ils sont même plutôt assez critiques sur les peuples qui pratiquent les sacrifices humains. Donc on n'est pas dans cette optique-là. On est plutôt, dans la commémoration, plutôt que dans l'idée de faire forcément couler le sang d'une victime qui est sacrifiée de toute évidence. Parce que dans la gladiature, justement, il y a l'idée qu'au moins un des deux, en tout cas, s'en sort. Alors qu'une victime sacrificielle, elle n'a aucune chance.
Et que faites-vous dans ces cas-là des sacrifiés aux fauves?
Alors ça, c'est autre chose. Là, justement, ça pose tout le problème de la gladiature qui a longtemps pâti d'une conjonction, du fait que différents phénomènes se passent dans le même lieu. Mais là, on est déjà dans la gladiature plus tardive, dans la gladiature donc, du Haut Empire, où l'on a dans le même lieu, c'est-à-dire l'amphithéâtre, un monument qui a été spécifiquement élaboré pour les gladiateurs. On a le matin des chasses, des venationes, donc des combats d'hommes contre fauves, qui sont souvent des professionnels de la chasse contre des fauves, de fauves entre eux, et ensuite dans les combats de mi, enfin dans les condamnés de midi, les méridiani, on a là ce qui constitue véritablement des condamnations à mort, avec toute la variété, toute la subtilité, toute l'imagination que les Romains peuvent apporter sur les supplices. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'après-midi, c'est les combats de gladiateurs qui, eux, se distinguent toujours donc, de ce qui s'est passé auparavant. Donc on a longtemps confondu justement cette idée du gladiateur qui pouvait être un condamné à mort, donc un sacrifié, alors que si l'on rentre vraiment non plus dans une vision moralisatrice de la gladiature, mais dans une vision technique, c'est ce que j'ai essayé de faire, on s'aperçoit que les gladiateurs sont de véritables spécialistes. Un condamné à mort ne donnera jamais un bon combat. Il aura peur, il voudra s'échapper, c'est pas ce qu'on attend de lui. Ça serait un manque total de professionnalisme. Ce qu'on attend du gladiateur, c'est quelqu'un qui ait une technique très particulière, très élaborée, et qui soit un véritable exemple de courage, de bravoure devant la mort.
Éric Tessier, je rappelle que nous sommes sur le stand de France Culture, au Salon du Livre, issu d'un rituel funéraire. Dans quelles conditions la gladiature se désacralise-t-elle? Et d'ailleurs, est-ce que c'est réellement le cas?
Alors, elle ne se désacralise jamais totalement. Et même les chrétiens qui parlent de la dernière gladiature, la gladiature finissante, justement, l'associent à des rituels païens, ce qui prouve qu'elle n'a jamais vraiment totalement perdu son caractère sacré et rituel. Même tardivement, même au 2e siècle, on a encore des empereurs romains qui organisent des jeux de gladiateurs, ce qui est assez courant pour des empereurs romains, mais spécifiquement, par exemple, pour commémorer les funérailles de leur épouse. Donc on a toujours ce rituel qui se maintient. Par contre, il est vrai qu'elle a tendance à se désacraliser dès la fin de la République. Il y a deux façons de la désacraliser. Elle se désacralise parce que ça devient de plus en plus une commémoration patriotique, c'est-à-dire qu'à l'issue de combats victorieux, on prend les équipements de l'adversaire, on les met en scène dans un combat qui devient plus spectaculaire que rituel. Et on accompagne aussi, c'est les gens de Capoue notamment qui font ça, on accompagne certains banquets de combats qui sont vraiment tout à fait dans le spectacle. Enfin, il y a un autre élément de déritualisation, c'est le fait que la gladiature devient de plus en plus un argument politique. Lorsqu'on veut faire une carrière à Rome, et c'est le cas avec César par exemple, il est de bon ton d'offrir à titre privé un très beau combat de gladiateur, ce qui attire la faveur de la plèbe et qui participe à maintenir ce lien direct entre le donateur, celui qui offre une évergésie, c'est-à-dire on offre quelque chose à la cité, et le peuple qui va remercier justement l'homme politique qui aura été généreux à travers un combat de gladiateurs.
Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'un beau combat ?
Un bon combat. Alors, un beau combat. Alors,
un bon, c'est bien sûr des gens qui se battent bien, j'imagine, mais un beau.
Un bon combat. Il y a de tout dans la gladiature. C'est comme dans le football. Il y a des équipes de première division et puis il y a les autres. On parle parfois de gladiateurs à dessous, les sesterriari, c'est-à-dire ce qu'approuvent vraiment des gladiateurs très médiocres. Alors, un beau et un bon combat, suivant les périodes, ça peut être, je dirais, il y a deux époques, avant Spartacus et après. Sans doute qu'avant Spartacus, ce qui compte le plus, c'est la quantité. On voit qu'il y a une croissance toujours exponentielle du nombre de paires de gladiateurs. Le premier combat sur le forum en 264, c'est 3 paires de gladiateurs. Et César va offrir, lui, 300 paires de gladiateurs. Donc on voit qu'il y a une croissance qui est constante. Donc la quantité est importante à une époque. Puis après, on se rend compte avec Spartacus que ça devient dangereux d'avoir en permanence des milliers d'hommes qui sont... destiné à la gladiature, et à cette époque-là, c'est pratiquement une mort, pas certaine, mais certainement très, qui arrive très souvent. Et donc, on voit ce que ça coûte d'avoir des hommes entraînés, qui sont souvent des prisonniers de guerre, et qui vont donc pouvoir se révolter, tenir en échec pendant 2 ans les armées romaines. Donc, je pense, en tout cas, c'est l'hypothèse que je formule, que c'est à partir de là qu'on voit évoluer la gladiature vers une gladiature qui est plus technique, alors que la précédente était ethnique. On mettait en spectacle, on mettait en musique aussi les combats des adversaires vaincus de Rome. Ensuite, on va aller vers des spécialistes de la gladiature, avec une distinction de plus en plus fine de ces techniciens du combat. Et donc, c'est ce que j'appelle la gladiature technique. Et là, à ce moment-là, à partir d'Auguste, ce qui va constituer un beau combat, eh bien, c'est un technicien, c'est un praticien qui maîtrise totalement son armatura, c'est-à-dire son type de gladiateur, sa panoplie d'équipement très précise, et qui va faire vibrer le public par des passes tout à fait extraordinaires, et aussi qui va montrer un véritable courage, un mépris de la mort, jusqu'à l'instant fatal. S'il est justement, il n'est pas gracié, s'il n'est pas renvoyé, ce qui va constituer un beau combat, c'est le gladiateur justement qui jusqu'au bout va faire preuve d'un grand professionnalisme face à la mort.
Vous me parliez d'Auguste, donc là on est à peu près au tournant, bien sûr, de notre ère. Éric Tessier, rentrons dans l'arène, voyons un peu les types de gladiateurs. Le premier, le Mirmillon, c'est un personnage clé justement au sein de l'arène.
C'est un des grands gladiateurs, le Mirmillon, donc il a été mis en scène notamment par ce tableau célèbre dont on reparlera de Jérôme. Le Mirmillon, donc, c'est suivant les époques, il peut avoir des adversaires différents, mais il va se stabiliser au 1er siècle de notre ère et ça sera l'adversaire systématique du Thrace. À cette époque-là, justement, la gladiature est devenue technique. C'est-à-dire que l'on va opposer, dans le cas présent, les contraires. Le Mirmillon se distingue par un grand bouclier, le Thrace par un petit bouclier, le Scutum contre la Parma. Ça induit un type de combat tout à fait différent. Le Mirmillon a également un glaive droit, court et droit. Le Thrace a un glaive courbe, la Sica, qui a une origine orientale, comme le Thrace. Et donc, on a deux types de combattants qui sont à armes égales, c'est-à-dire qui sont équilibrés. Il n'y en a pas un qui va systématiquement perdre, sinon ça ne serait pas drôle, mais qui vont devoir déployer des techniques de combat complètement différentes l'une de l'autre et très originales. Et on voit justement à cette époque-là, 1er siècle, la grande époque du Thrace et du Mirmillon, on voit que les gens se passionnent par rapport à ceux qui sont partisans du grand bouclier contre ceux qui sont partisans du petit bouclier. On a tout ce monde des supporters qui se passionnent par rapport à la technique du gladiateur en question. Donc ça, le Mirmillon, effectivement, est un des grands types de gladiateurs.
Il y a aussi le provocateur avec son bouclier.
Alors le provocateur, qu'on a longtemps expliqué, le provocateur, le gladiateur qui provoque, ce qui n'était pas vraiment quelque chose de très éclairant. Alors le provocateur, c'est en fait un type de gladiateur que maintenant qu'on peut bien identifier. L'exception, c'est qu'il se... Il combat contre lui-même, c'est toujours un provocateur contre un autre provocateur. Et on pense, pour l'avoir expérimenté, que c'est probablement un type de gladiateur pour les tyrones, c'est-à-dire les débutants, les premiers gladiateurs. C'est pas quelque chose qui apparaît souvent, justement, qui apparaît d'ailleurs même pas du tout sur les affiches de spectacle. Quand on annonce des combats avec des paires de gladiateurs, les provocateurs ne sont jamais dedans. Donc l'idée, c'est que c'est probablement un type d'armatura où les jeunes gladiateurs donc, font leurs premières armes, commencent à avoir les rudiments de la gladiature et ensuite vont se positionner sur un type particulier de combat, soit petit bouclier, soit grand bouclier, soit rétière, soit sécouteur.
Il y a bien sûr le rétière, vous en parliez à l'instant.
Alors le rétière
avec son trident, c'est ça ?
C'est le plus fameux, c'est le plus facile à reconnaître. C'est un gladiateur particulier qui est on le voit, les toutes premières traces paraît sans Gaulle d'ailleurs, à l'époque donc d'Auguste. C'est un gladiateur qui est tout à fait redoutable, puisqu'il a à la fois un trident et un filet. Il a aussi une dague, donc il doit maîtriser trois armes différentes. Il combat sans casque, sans bouclier, sans protection de jambes, donc il est complètement nu. Et ça fait souvent dire aux auteurs, un peu anciens, que ce gladiateur était finalement un sous-gladiateur. C'était quelqu'un qui était mal équipé, c'était vraiment un pauvre bougre qu'on avait équipé comme ça. Or, quand on voit, par l'expérimentation, que la complexité qu'il y a de maîtriser face à un adversaire qui n'est pas immobile, trois types d'armes différentes, on voit que c'est au contraire, le rétiaire est un grand spécialiste, c'est quelqu'un qui est vraiment au sommet de la technique des gladiateurs et qui en plus a un rapport particulier avec le public, puisque c'est le seul qui va combattre à partir du milieu du 1er siècle à visage découvert. Donc ça va établir une relation particulière entre lui et le public.
Ce serait peut-être le plus dangereux ?
C'est probablement le plus dangereux. C'est celui qui va donner le plus de fil en retordre, puisqu'on le crée sous octave, mais on va vraiment trouver un adversaire à sa mesure, seulement à l'époque probablement des Flaviens, quand on va créer donc son adversaire définitif, le sécutor, qui va se distinguer par un type de casque tout à fait exceptionnel. Moi, je compare ça à une tourelle de char, c'est-à-dire que ce casque est extrêmement épais sur la protection faciale, plus d'un centimètre de bronze pour les trois exemplaires qu'on a retrouvés donc à Pompéi, avec un cimier aussi qui est tout à fait profilé, qui est adapté justement au lancer du filet, qui fait que c'est un casque qui est sans aspérité et qui permet donc de se débarrasser, même en combat, du filet s'il n'a pas été positionné de manière parfaite. Donc on voit là justement que c'est une gladiature, comme je dis, tout à fait technique, qui s'élabore, où on cherche justement à trouver les moyens de contrecarrer donc l'armatura de l'adversaire. Donc c'est quelque chose qui évolue au fil du temps.
Dans cette longue liste, il y a bien sûr aussi les Thraces, qui est un combattant ethnique. Et puis, il y a aussi le Tiro, le jeune gladiateur sans expérience et dont le premier combat peut être absolument fatal.
Ben, c'est tout le problème. Donc, l'idée, donc, à partir, je pense, donc, de Spartacus, on voit qu'il y a un changement à ce moment-là. Les gladiateurs ne sont plus systématiquement des esclaves. On voit de plus en plus apparaître ce qu'on appelle l'octoratus. L'octoratus, c'est l'homme libre qui est parfois donc, de milieu aristocratique qui s'engage volontairement dans une carrière de gladiateur avec tous les risques que ça comporte. Donc, ce qui montre l'attrait qu'a la gladiature sur la société romaine dans son ensemble. Et le Tiro, c'est le jeune, celui qui commence sa carrière, qui va donc aborder son premier combat. Il n'a pas de palmarès, donc il n'a jamais combattu, il ne vaut rien, entre guillemets, sur le plan donc, de son statut, sur le plan donc, de sa qualité donc, de combattant. Et donc, s'il faut sacrifier quelqu'un, ce sera celui-là. S'il faut que l'éditeur donc verse le sang, il aura évidemment beaucoup plus de facilité à condamner un jeune Tiro qui aura peut-être été impressionné lors de son premier combat, qui aura peut-être pas été très courageux, et donc qui n'en fera pas un deuxième, parce que là, l'enjeu financier sera évidemment moindre que s'il va sacrifier, si le public le demande, un gladiateur qui serait déjà avec un vieux briscard, avec beaucoup de combats victorieux à son actif.
Et puis, il y a l'équesse avec son cheval, sa tunique. Et puis, disons-le, il y a des sénateurs, il y a même des empereurs. Commode sera lui aussi gladiateur.
Alors oui, c'est vraiment là aussi quelque chose qui montre que la gladiature est plus complexe que celle qu'on imagine ordinairement suite au péplum. La gladiature, elle touche vraiment toute la société. Elle va toucher de l'esclave jusqu'à l'empereur et tout ce qui est entre les deux. C'est vrai que les Romains font à plusieurs reprises des lois pour interdire aux sénateurs, aux fils de sénateurs, aux fils de chevaliers et même aux filles de sénateurs de rentrer dans la carrière gladiatorienne, ce qui prouve bien que ça attirait tout le monde. Et si on refait les lois, ça prouve bien qu'elles n'ont pas été non plus appliquées. Donc on a cet attrait donc, de la gladiature pour vraiment tous les niveaux de la société jusqu'aux empereurs. Alors certains empereurs, bon, Caligula apparemment a combattu en tant que Thrace et surtout Commode. Commode qui va finir par faire la propre caricature de la gladiature en combattant accompagné du chef de la garde prétorienne avec des armes acérées alors que ses adversaires sont avec des armes non tranchantes. Donc il peut évidemment se targuer de centaines de victoires, mais bon, c'est plus finalement quelque chose d'une sinistre caricature qu'une réalité du combat. Et ça montre justement cette évolution de la gladiature vers le 3e siècle, vers une gladiature qui redevient plus violente et plus brutale.
Il y a aussi la Ludia qui désigne une femme de mauvaise vie, mais aussi une gladiatrice.
Ah, ça c'est un des grands fantasmes de la gladiature, la gladiatrice. Alors elle est attestée, c'est une réalité. On a très peu de représentations de ces femmes gladiatrices, mais elles sont bien attestées dans les textes. Elles existent au moins du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au début du 3e siècle après Jésus-Christ. Alors la Ludia, c'est à la fois la femme qui fréquente le ludus, c'est-à-dire l'école de gladiateurs, parce que les gladiateurs ont une réputation qui est apparemment bien établie à l'époque à l'époque antique, avec des graffitis musclés et beaux garçons, avec des graffitis sur les murs de Pompéi où on dit que tel gladiateur est le soupir des pucelles. Donc il y a ces Ludia qui fréquentent donc le ludus. Elles peuvent être d'ailleurs de tous les niveaux sociaux. Et il y a aussi la femme gladiatrice, celle qui va revêtir certaines armatures, pas toutes. Certaines sont plus ou moins adaptées donc à une musculature féminine. Mais on connaît des femmes qui sont provocatrices. On connaît aussi des femmes qui probablement ont été thraces ou essédères qui ont combattu donc sur des chars. Donc un autre type de gladiateur. Donc tout cela est attesté, n'est pas un fantôme, c'est une réalité. Il montre bien que la gladiature touche vraiment tout le monde dans la société romaine.
Eric Tessier, vous avez aussi entrepris de l'archéologie expérimentale. De quoi s'agit-il exactement dans le cas de la gladiature ?
L'archéologie expérimentale, c'est quelque chose donc d'intéressant. C'est quelque chose que nous pratiquons dans la jeune et dynamique université de Nîmes. L'archéologie expérimentale, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est même Napoléon III qui a commencé à reconstituer des catapultes romaines parce qu'il était passionné de ces arts. Les préhistoriens ont aussi beaucoup appris de choses en eux-mêmes refaisant les gestes de nos lointains ancêtres parce qu'il n'y a pas d'archives préhistoriques. Pour la gladiature, c'est le même principe. C'est que les sources nous disent beaucoup, mais elles ne nous disent pas tout sur la gladiature. Il ne nous est pas parvenu le manuel du parfait petit gladiateur ou la gladiature pour les nuls. Ça peut être existé, mais ça ne nous est pas parvenu. Donc, pour comprendre justement comment combattre ces gladiateurs, mais il faut passer par l'étape de la reconstitution, c'est-à-dire reproduire le plus précisément possible les éléments qui nous sont parvenus par l'archéologie, je parlais des casques de Pompéi, ou par l'iconographie. On a plus de 1500 images de gladiateurs que j'ai répertoriées, et puis on a encore sûrement plein d'autres. Et une fois qu'on a reconstitué ça, on ne s'arrête pas là. On ne dit pas, voilà, je suis habillé en gladiateur, je suis un gladiateur. Mais on essaie de travailler, comme on travaille dans le domaine des arts martiaux, sur les techniques. On essaie donc de combattre sportivement, avec évidemment des armes mouchetées, mais comme le faisaient les Romains très couramment donc à l'époque antique. Et par là, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Il apparaît que le casque, qui paraît très lourd, au fond, une fois qu'on l'a sur la tête, il n'est pas si lourd que ça. On voit justement qu'il y a tous les problèmes de vision par rapport donc à ce casque, que le bouclier est au centre des débats, que c'est vraiment là le fond de la technique gladiatorienne. Et par là, par l'expérimentation, on comprend beaucoup de choses que les textes ne nous disent pas. Et ça nous permet, c'est un peu le sens de ma HDR, de revenir sur les sources et de mieux comprendre ces sources sur lesquelles on était passé parfois un peu rapidement.
Justement pour Sénèque, la gladiature est une école de courage face à la mort. Ave Caesar, morituri te salutante, quelle est la place exacte de la mort au sein du spectacle ?
Mais si la mort était systématique, comme on la montre souvent dans les péplums, comme le dernier, donc Gladiator, ça n'aurait pas tenu en haleine les Romains pendant des siècles. C'est autant aller aux abattoirs. Là, la mort, elle est bien présente. Je ne veux pas non plus défendre l'idée d'une gladiature pacifique. Non, c'est vraiment quelque chose qui arrive, mais c'est quelque chose qui est là aussi très ritualisé. C'est-à-dire que tout le monde ne meurt pas, surtout à l'époque de la gladiature technique. C'est très difficile de faire des statistiques, peut-être 10-15% par combat qui sont offerts. C'est toujours le public, au fond, qui décide et l'éditeur qui tranche. Le public, par différents signes, peut justement donner son avis sur celui qui a été vaincu. Le but n'est pas de tuer son adversaire, et ça l'expérimentation permet de bien le comprendre, mais de le pousser à bout, de l'obliger à déposer les armes, à mettre sa vie entre les mains du public. Et donc, suivant que le combattant a été, comme le dit Sénèque, un exemple de courage ou pas, ou de technique, il sera renvoyé, missio, c'est-à-dire qu'on le renvoie vivant, ou il ne sera pas renvoyé, et à ce moment-là, il sera tué dans des formes là aussi ritualisées, très particulières, comme on le voit sur certaines représentations de l'époque.
Au-delà du péplum, notre vision de la gladiature est le fruit des premiers auteurs chrétiens de l'Antiquité ou des moraliste du 19e siècle, hein, sans aucun doute.
Sans aucun doute, c'est longtemps cette vision qui a prévalu. J'ai essayé, moi, de la voir non pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue plutôt technique et aussi financier, social. C'est vrai que ces auteurs chrétiens voient la gladiature, je dirais, ils la voient sans la voir. Ce sont des faux témoins, puisqu'en tant que chrétiens, ils n'ont pas le droit d'assister à des spectacles. Donc, ils nous parlent de la gladiature par oui-dire, et en plus, une gladiature qui est celle de la fin de l'Empire, de l'époque de la crise de l'Empire, où on a beaucoup moins de moyens pour entraîner pendant des mois, voire des années, de véritables champions, des bêtes de combat. Et donc, ils voient une gladiature qui est redevenue un peu celle qu'elle était avant de Spartacus, c'est-à-dire une gladiature brutale et plutôt sanglante.
Pour vous, la gladiature serait un phénomène économique et social fondamental pour la compréhension de la civilisation romaine ?
De toute évidence,
oui. Quels sont vos arguments dans ce
cas-là ? Alors, les arguments, il suffit par exemple de reprendre un plan de ville romaine. On voit la place que l'amphithéâtre occupe dans cette ville romaine. Elle a au fond la place, l'espace qu'occuperaient les cathédrales au Moyen-Âge. Mais il n'y a pas que l'amphithéâtre. L'amphithéâtre étant un monument spécifiquement destiné créé, inventé pour les gladiateurs. Il y a aussi tous les bâtiments qui sont destinés à l'entraînement des gladiateurs qui sont autour et que l'on peut voir encore à Pompéi. Donc il y a une place dans la cité. Au-delà, on sait le prix des gladiateurs, on connaît le nombre de combattants qu'il y a lorsqu'un magistrat offre à sa cité des gladiateurs. Donc c'est quelque chose qui est coûteux, à tel point que Marc Aurèle va devoir faire un édit pour limiter le coût des gladiateurs. C'est pas pour limiter la gladiature, au contraire, c'est pour permettre aux notables de province de continuer à pouvoir offrir des gladiateurs parce que leur prix devient de plus en plus exorbitant. Donc tout ça génère une économie. C'est une économie de service où il y a des lanistes, des propriétaires de gladiateurs, des imprésarios de gladiateurs qui vont proposer leurs services à des notables, moyennant évidemment finance, avec une école de champions qui propose donc ses services.
Tout ça est très rentable.
Tout ça est très coûteux pour les notables, mais c'est le passage obligé pour une carrière politique, y compris sous le Haut Empire. Mais cela aussi est très rentable pour les lannistes.
Et pour vous, il ne s'agit pas de décadence, tout au contraire, mais un élément capital de la Pax Romana. C'est quelque chose d'absolument clé.
Au risque de choquer, oui, je pense que c'est, comme je dis, un conservatoire des vertus guerrières de Rome au 1er, 2e siècle. Rome vit dans la Pax Romana, elle délègue la protection de son empire à la Légion. La Légion est sur le limes germanique ou danubien. Et donc le Romain qui se pense quand même comme fils de Mars n'a plus le contact qu'avaient ses ancêtres avec la guerre et la chose militaire. Donc c'est quelque chose qui maintient ce contact avec la chose guerrière, d'autant qu'il y a toute une gladiature que l'on connaît mal mais que l'on sait exister. C'est la gladiature sportive que les Romains pouvaient pratiquer avec des armes mouchetées comme on le fait dans l'expérimentation.
Dans quelles conditions s'achèvent ces spectacles ? En quelques mots, par quoi la gladiature est-elle remplacée ?
Elle est remplacée par ce qui existait déjà, les courses de chevaux, les combats de fauves. Les gladiatures disparaissent plus faute de combattants et faute de moyens qu'à cause des condamnations de l'Église.
Éric Tessier, merci beaucoup. Donc, je rappelle votre livre « La mort en face, le dossier gladiateur » publié chez Actes Sud.
Merci beaucoup.
La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré à l'an 1000 chez les comtes d'Angoulême. Le Salon Noir a été réalisé par Julie Bérécy, à la technique Pascal Dupont-Bouvier et Evelyne Carmois. Sonorisation Stéphane Poitvin. Vous pouvez bien entendu réécouter ou podcaster cette émission sur la page Le Salon Noir sur le site franceculture.com.